Brume 90.7, nouveau Confluence Cinéma. Je suis dans les studios de Brume avec Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on a un gros programme en ce jour de neige et neige-pluie sur Lyon. Pas mal de films. On vous parlera notamment des Nouveaux Sauvages. Moi, je vous parlerai du film Loin des Hommes, tiré d'une nouvelle d'Albert Camus. Raphaël, tu nous parleras d'un téléfilm, non ?
D'un TTV, donc un direct to video, un film espagnol qui s'appelle Open Windows de Nacho Vigalondo.
Donc ça sera la première partie. Deuxième partie, vous reviendrez tous les deux sur le film événement un peu du moment, c'est Foxcatcher, qui avait reçu un bel accueil à Cannes et qui est maintenant en salle.
Oui, c'est mérité, hein.
Prix de la mise en scène.
Et dans une troisième partie, on reviendra un petit peu sur les contre-emplois au cinéma, les acteurs comiques qui, à un moment de leur vie, ont fait un ou plusieurs grands films plutôt dramatiques, notamment, on pense à Coluche, à Bourville, à quelques-uns.
Oui, par exemple, à l'occasion effectivement de la sortie de Foxcatcher, où Steve Carell est actuellement nommé meilleur acteur aux Oscars.
Donc dans un rôle qui est vraiment à contre-emploi de tout ce qu'il a fait juste après.
Même s'il y a des moments un peu comiques, je crois.
Alors Raphaël, on te donne la parole pour ouvrir cette émission.
Alors oui, moi j'aimerais évoquer un cinéaste, un jeune cinéaste espagnol. On n'en parle pas souvent du cinéma espagnol et pourtant il est quand même bien là, il est bien présent.
On en parlait à une époque et c'est un peu comme le cinéma asiatique. Il y a eu une période de mode et depuis quelques temps, ça s'est un peu atténué.
Ouais, surtout dans le cinéma de genre. Le cinéma fantastique, etc. Et là, il y a un jeune metteur en scène qui avait explosé avec un film qui s'appelait Time Crimes, un film de voyage dans le temps, etc.
Qui était passé au Comédia pendant le festival des Feux, les Alus. Et je l'avais vu à cette occasion. Et je crois qu'il
est passé à Gérardmer d'ailleurs.
Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai pas vu à Gérardmer. Je l'avais vu dans le cadre de ce festival-là au Comédia. Et je crois qu'il n'est jamais sorti en salle. Peut-être que je me trompe. Il a eu une sortie direct ou DVD assez médiatisée. Et effectivement, c'était pas mal comme film.
Et son deuxième film que j'ai pas eu la chance de voir, c'est encore pire. Il a carrément pas eu de sortie, même je crois en Espagne. Il s'appelle Extraterrestre. Donc vraiment encore un autre sujet. Et là, pour le coup, il revient avec un film produit en langue anglaise, mais effectivement financé par le gouvernement espagnol de la culture. Donc on voit toujours ces trucs espagnols, il y a 15 milliards de sponsors, c'est très très drôle, un peu comme les films anglais quoi.
Les films coréens.
Voilà, c'est très très drôle de voir ça. Et il revient avec un film qui s'appelle Open Windows, avec un duo vraiment très improbable, Elijah Wood, Sacha Gray, hein. Donc Elijah Wood, l'acteur de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux, et Sacha Gray, l'immense pornstar qui a révolutionné le porno, notamment dans une veine, on va dire, autorisante. Et le film raconte... C'est assez dur de raconter l'intrigue parce qu'en fait, le film raconte le point de vue d'un ordinateur pendant environ 1h40. C'est-à-dire que la caméra filme un ordinateur avec plein de fenêtres ouvertes. Ça rappelle le procédé du found footage, hein, mais ce n'en est pas un, donc c'est beaucoup plus fluide, on va dire, beaucoup plus agréable à regarder. C'est l'histoire en fait d'un webmaster qui est passionné par une starlette de cinéma de genre, donc incarnée par Sacha Gray. C'est une sorte de Kristen Stewart dans les Twilight, en fait. Elle fait un film de zombie 28 qui cartonne, quoi. Et il est invité à un concours, à l'interviewer, et à faire son site internet par la suite, quoi. Et donc, le gars est vraiment comme un fou. Il l'a invité dans une chambre d'hôtel pour suivre la conférence de presse du film zombie 28, machin, quoi. Et à partir de là, une sorte de grand méchant, une sorte de tueur en série masqué, on le verra jamais, enfin jusqu'à la résolution finale, qui tire un peu les ficelles, va manipuler assez rapidement Elijah Wood pour voir cette jeune actrice dans des positions un peu sexuelles, etc., avant de commettre l'irréparable, de la torturer, de la violer, de la tuer, etc., etc. Bref, le jeune metteur en scène, donc Nacho Vigalondo, on sent qu'il connaît très très bien déjà le cinéma de Dario Argento. On retrouve tous les tics de mise en scène, le gant, le poignard, la jeune fille dénudée, la sensualité qui se dégage. Mais ce qui est intéressant, c'est ce côté justement 2.0, quoi. Ce côté comment on va filmer cette bestialité, cette violence-là à l'ère d'aujourd'hui, de Twitter, de Facebook et compagnie. Et il trouve ce système-là de caméra, de Skype et compagnie. Et c'est vraiment, pour le coup, assez bien vu, assez nouveau dans le système du found footage. Comme je l'ai dit, c'est assez fluide, ça se regarde de manière assez agréable, même s'il faut reconnaître que la trame narrative sombre progressivement un peu dans le ridicule. Après, il y a des hackers qui viennent en parallèle de l'intrigue, qui vont aider Elijah Wood pour savoir qui est le criminel. Il y a aussi une sorte de hacker, de génie qui a manipulé tout le monde, qui est la base d'attentats virtuels, qui a manipulé des gouvernements, etc., qui va se rajouter à l'intrigue. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, ça complexifie l'intrigue, qui est quand même assez basique, quoi. C'est un tueur qui manipule un homme pour des fins sexuelles, à des fins de, voilà, de viol, en fait, un peu comme le voyeur de Powell. On retrouve cette pulsion voyeuriste, mais à travers Internet. Ce qui est une bonne idée. Mais voilà, le film se perd un petit peu au niveau narratif. C'est dommage parce qu'au niveau visuel, encore une fois, le found footage est assez bien vu puisqu'il y a vraiment un découpage. Puisqu'en fait, la caméra passe d'une fenêtre à une autre. Il y a plein de fenêtres ouvertes sur son Mac à Elijah Wood qui transporte constamment dans la bagnole. Il y a des courses-poursuites assez bien montées, assez bien vues. Il y a de l'action, ça marche assez bien. Mais voilà, le film se perd un petit peu et c'est dommage puisque c'est un bon film. Le casting est assez, je trouve, assez prometteur. Hein. Voilà, Elijah Wood, le voir un petit peu... un peu comme dans Maniac, avec ce côté première personne.
Ouais, mais un rôle aussi à contre-emploi.
Ah, bien sûr.
Une nouvelle fois.
Mais il a fait souvent des rôles de tueur en série, un peu dans Sin City déjà.
Oui, c'est vrai.
Ouais, un peu des rôles de Maniac. Et Sacha Chagrin surtout, qui tourne. Bon, elle n'est pas très présente dans le film quand même. Mais qui tourne quand même avec Soderberg aujourd'hui, qui fait de la télévision avec Entourage, et qui maintenant fait plus ou moins des bonnes séries B. Hein, c'est quand même pas si mal. Et je trouve, voilà, le film se laisse regarder. Vous le pouvez trouver assez facilement donc chez Wild Bunch, toujours eux, hein, en Blu-ray, en DVD. Donc, une assez bonne surprise, mais peut-être pas assez tenue dans son concept.
Alors Hakim, tu vas nous parler des Nouveaux Sauvages, qui est un film dont on entend pas mal parler en ce moment.
Oui,
aussi.
Car apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, le film enregistre un score assez inattendu, 3,5 millions de spectateurs, hein, pour un film qui est sorti, je crois, il y a quelques semaines. Hein, on en parle un petit peu sur le tard, car il y a eu d'autres films qui sont sortis entre-temps. C'est un film qu'on a pu voir à Cannes avec Raphaël et également Jimmy. Hein, mais non, il dormait pas devant, non, c'est devant Foxcatcher qui dormait, Jimmy.
C'est Foxcatcher, non, balance.
Et c'est un film qui, comme pour Captive la semaine dernière, la Tom Egoyan, s'est fait un peu décrié par la critique, tout simplement parce que certains pensent que ce genre de film n'a pas sa place en compétition. J'ai envie un peu de cirer les pompes de Thierry Frémaux et lui dire c'est quand même assez courageux de tenter un coup de poker comme ça. On sait à peu près pourquoi il a tenté ça, car le film est produit par les frères Almodovar. Donc bon, je pense que c'était plus...
Pedro et Agustín.
Voilà, donc c'était plus, je pense, une façon d'enterrer l'âge de guerre et de lui proposer, une fois sur place, le prix Lumière. Bref, passons. Les Nouveaux Sauvages, c'est le troisième film d'un metteur en scène, argentin, qui s'appelle Damien Cifron. La particularité de ce film, c'est qu'il relance la mode du film à sketch, qui a connu ses heures de gloire dans les 60, notamment grâce au cinéma italien. Là, on n'est plus dans le film à sketch avec des histoires qui n'ont pas forcément de lien au niveau de l'intrigue. Dans le thème, il y a un lien, c'est le pétage de plomb, c'est les situations ordinaires que nous vivons au quotidien qui peut amener à une catastrophe ou à un pétage de plomb. Alors, c'est un film à sketch qui dit film à sketch, dit bancal, tous les épisodes ne sont pas bon. Il y en a deux particulièrement que je raffole assez. C'est la séquence, c'est le segment avec la voiture où on a un homme qui, dans la pampa, roule en petite Peugeot et se fait courser et doubler par un gars en Audi. Et de là va naître une course-poursuite qui rappelle le duel de Spielberg, même si là on a les deux protagonistes qui sont identifiés. Il y a également l'épisode où un expert en explosifs, en démolisseur, démolisseur de bâtiments, enfin je sais pas comment on appelle ça, se voir retrouver sa voiture à la fourvière tout simplement parce qu'il s'est garé à un endroit où le marquage sol était mal indiqué, payant. Et voilà. Et moi je trouve que déjà, bon, c'est un film qui est assez fun malgré le fait que certains épisodes ne se valent pas. Le film soit avec une petite intro qui se passe dans un avion.
C'est très très drôle. Où c'est un pilote d'avion qui veut crasher l'avion parce qu'il s'est fait tromper.
Non, en fait, voilà, c'est une personne qui discute avec une femme et la discussion tourne autour d'un ancien collègue de lycée qui était un peu le souffre-douleur. Et là, on se rend compte dans l'avion que tout le monde a eu affaire à cette personne-là. Et finalement,
la personne. Persécuté par, ouais.
Voilà, et finalement, la personne qui conduit l'avion est cette personne et va se scratcher dans le jardin de deux vieux papis. Je ne sais pas ce qu'on avait pensé, on avait beaucoup rigolé.
Moi, ça m'avait surpris de voir un film comme ça, surtout à Cannes.
D'ailleurs, le dernier film à sketch qui a été programmé en compétition officielle à Cannes, c'était le sens de la vie des Monty Python.
Ah oui, qui avait eu un prix, que j'ai vu dernièrement pour la première fois, effectivement, qui était assez extraordinaire.
Et le film, j'ai lu ça, réunit un casting assez divers et varié. Hein. Il y a des acteurs donc, qui viennent tout du cinéma argentin, des acteurs qui viennent du cinéma indépendant, du cinéma commercial, du cinéma populaire, de la télévision. Donc, bien sûr, c'est des tronches qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Peut-être que ça viendra par la suite, parce que le film contient une pléiade d'acteurs tous originaux et aussi bons les uns les autres. Il y a aussi le dernier film qui se termine, c'est une noce de mariage, où une mariée se rend compte, lors de la noce de mariage, se rend compte que son mari a une maîtresse, et la maîtresse est dans la salle.
Et là, ça part en couille.
Et ça part en couille, c'est le moins que l'on puisse dire.
Non, mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé, surtout, et pour un film de Ken, c'est que c'est ultra drôle, déjà. C'est vraiment une comédie qui est très, très gore. Il y a beaucoup de passages avec du sang, des tripes, etc.
C'est l'humour noir, il faut le préciser.
Ah,
il y a
du pétage très, très loin.
Ça montre que l'homme, d'ailleurs, c'est un thème qu'on va évoquer par la suite dans le Foxcatcher, ça montre à quel point l'homme, est un homme humain classique, peut péter un plomb à n'importe quel moment et peut se transformer en bête.
C'est
pour
ça.
Une simple petite chose.
C'est un peu aussi, j'ai l'impression, enfin moi j'ai pas vu le film de ce que j'en ai entendu ou les extraits que j'ai vus, c'est un petit peu les fantasmes qu'on a tous aussi, quoi, où voilà, on est dans sa bagnole, on nous fait une queue de poisson,
on a envie de
tout casser, ou on se fait insulter par une vieille dans la rue, etc. Enfin, il y a un peu ce truc où, ben, en général, on arrive à se contenir ou à juste un petit peu dire deux, trois mots. Mais là, c'est vraiment l'explosion, finalement.
Des choses assez chutes libres.
Voilà, exactement.
Chutes libres de Schumacher.
Bon, voilà, on dit que c'est du cinéma, que c'est drôle, que c'est fun. C'est des choses qu'on ne recréerait peut-être pas dans la vraie vie. D'ailleurs, il faudrait peut-être mettre au début du film ou sur l'affiche des choses à ne pas faire à la maison, des choses à ne pas faire dans la rue, des choses à ne pas faire chez soi.
Et il y a deux trucs que j'aimerais dire à propos du film. Déjà, moi, je trouve que c'est assez politique, mine de rien. Sous couvert de comédie, de gore, etc., on balance quand même pas mal sur la société d'aujourd'hui, contemporaine, capitaliste, le coût du parking, par exemple, l'administration, enfin des choses qui aliènent l'homme progressivement. Et un truc qui est très, très drôle, il y a un collègue qui a vu le film dernièrement en salle. Par rapport à nous, il y a un petit spot, on pourrait dire, un petit pliant, au moment du générique, qui est assez scandaleux, où la Warner fait sa pub.
Oui.
Pendant le générique, il propose en fait un jeu pour gagner des places pour tes amis si tu as aimé Les Nouveaux Sauvages. Et je trouve que faire de la pub pendant même le film, je trouve ça quand même assez lamentable de la part des distributeurs. Et ça fait assez peur, je trouve, quant à l'avenir du cinéma, tout simplement, en tant qu'art.
Là, tu retouches une œuvre d'art, parce que c'est un générique.
Exactement, voilà.
C'est comme quand tu diffuses un générique en accéléré sur TF1, c'est assez honteux.
Bien sûr.
Bon.
D'accord.
Il faut y aller, c'est fun. Hein.
Ah oui, c'est super.
Ça a un gros succès. C'est vraiment un film à sketch, à l'ancienne, avec de l'humour noir très graveleux. Il faut quand même préciser que ça reste du cinéma. Il ne faut pas reproduire ce qu'on voit à l'écran dans la vraie vie, parce que là, ça peut tourner au carnage.
Ok, messieurs. Pour finir cette première partie, un petit peu des films à découvrir en ce moment, moi, je vais vous parler d'un long-métrage complètement différent qui a été réalisé par Davin. Alors, c'est un petit peu difficile à prononcer, Oelofen, je pense, qui s'appelle Loin des Hommes. Alors, ce réalisateur avait déjà fait Nos Retrouvailles, qui avait bien marché en 2007 avec Jacques Gamblin, l'histoire d'un père un peu mafieux, un peu braqueur, qui retrouve son fils après des années et qui va essayer de l'entraîner un peu pour vivre une aventure commune. Et là, il adapte une nouvelle d'Albert Camus qui s'appelle L'Hôte et qu'il a, lui, intitulé donc Loin des Hommes dans son film. C'est donc une histoire qui se passe en Algérie. Alors, on est en 54, c'est vraiment le tout début de... Alors, c'est même pas encore vraiment... La guerre n'est pas nommée. On va dire que c'est plutôt qu'il y a des événements. Il y a déjà eu les massacres, il y a déjà eu des soulèvements. Et là, il commence à y avoir des maquis un petit peu partout, notamment dans l'Atlas. Et donc, c'est l'histoire de Daru, qui est interprété par Viggo Mortensen, qui est un instituteur qui aime bien son métier, qui aime bien ses gamins, qui aime bien l'environnement désertique autour de lui. Il est donc dans sa petite école au plein cœur de l'Atlas. Et un jour, un matin, il y a un garde qui lui amène un prisonnier qui est interprété par... Comment il s'appelle cet acteur? Vous allez m'aider, messieurs.
Reda Kaleb,
ouais, voilà, qu'on a découvert dans Le Prophète, qui en ce moment est dans pas mal de choses, dans Hippocrate, etc. Très, très bon acteur. Enfin bref, ce Mohamed en fait vient de tuer son cousin et le garde français donne l'ordre à Daru, l'instituteur, de le convoyer jusqu'à une ville pour qu'il soit jugé et probablement exécuté. Sauf que Daru, lui, il refuse ça parce qu'en fait, c'est vraiment pas son truc. Il a pas envie de convoyer cet homme à la mort. Mais voilà, plusieurs attaques successives de son école pendant la nuit vont faire que finalement, il va partir avec cet homme en direction de son jugement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le réalisateur, en fait, il prend l'angle du western. C'est-à-dire que rapidement, en fait, que ce soit au niveau des images, au niveau de l'intensité, au niveau des cavaliers, il y a beaucoup de cavaliers alors qu'ils viennent soit c'est des Français qui ont envie d'exécuter Mohamed pour se venger de vol de bétail, soit c'est les cousins de Mohamed qui essayent de l'attaquer. Enfin, il y a comme ça toute une atmosphère un petit peu de western, et les images sont très belles, c'est très bien interprété. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'intrigue, on va se rendre compte que Daru a un passé plutôt guerrier, que ça a été un grand général, enfin on sait pas exactement son grade, mais en tout cas qu'il a été important pendant la guerre de 39-45 en France. Il retrouve du coup plusieurs de ces anciens soldats qui sont passés du côté du FLN. Et puis surtout, on voit ce Daru, et ça rejoint pour le coup l'histoire de Camus, en fait, de sa nouvelle. C'est-à-dire que c'est aussi les prémices de cette guerre d'Algérie et de ce Daru qui est complètement partagé, en fait, qui à la fois respecte le sentiment d'indépendance, qui en même temps, lui, est né sur cette terre d'Algérie, qui n'a pas envie d'en partir vraiment. Enfin, il y a vraiment ça, et c'est un peu le fond de ce qui a hanté Camus pendant des années. Enfin voilà, c'est vraiment un film à la fois intéressant à voir, où il est très contemplatif pendant de longues minutes, puis il y a des moments, des grosses scènes d'action, et puis voilà, et puis Daru qui essaye de dire à Mohamed, mais échappe-toi, ne va pas à la mort, et on comprend petit à petit que Mohamed fait ça, en fait, lui, pour protéger, en fait, ses frères, parce qu'il y a une sorte de vendetta, en fait. Il a tué son cousin, donc ses frères vont devoir tuer un de ses cousins, etc. Et lui, il veut mettre fin à ça, donc il se sacrifie. Enfin, il veut, en tout cas, se sacrifier. Enfin, voilà, film étonnant, assez original et plein de courage, quoi. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça.
Ok.
T'as fait envie, en tout cas, sur le papier.
Et on se retrouve après une pause musicale pour la deuxième partie où on va parler de Foxcatcher. How did it feel when we were wiser? Lose was like a flashy antenna seeking out and saving. Deuxième partie de notre confluence cinéma, et messieurs, vous allez revenir sur le film Foxcatcher.
Oui, un film qui a plu énormément au dernier festival de Cannes hein, et qui a même reçu le prix de la mise en scène. Hein. Tout le monde s'attendait à la récompense de Steve Carell, hein, étant présent à la séance de presse à Cannes à 8h30 du matin. De tous les films présents en compétition, Steve Carell était le seul acteur applaudi par les journalistes. Donc tout le monde s'attendait à une récompense et j'espère, moi en tout cas, je le dis d'emblée, qu'il aura l'Oscar. C'est la plus belle performance que j'ai pu voir cette année, moi, en termes d'acteur.
C'est vrai que c'est un scandale quand tu reprends quand tu prends un peu de recul et que tu regardes le palmarès et le prix d'interprétation qui a été décerné à l'acteur qui jouait Mr. Turner, donc j'oublie toujours le prénom.
Justement, j'y réfléchissais hier, je n'ai même pas pu trouver qui a gagné. Donc merci de me le dire.
Oui, voilà, c'était l'acteur qui jouait dans
J'ai Mr. cherché Turner. Pendant une demi-heure hier. Merci Hakim.
Alors, Foxcatcher.
Vas-y. Tu fais l'intrigue ?
Alors, c'est le troisième film du réalisateur de Truman Capote et du
Stratège. Moneyball.
Voilà.
Deux très bons films.
Le prénom du réalisateur déjà.
Bennett Miller.
Miller. Donc, on va dire que son troisième long métrage, il avait déjà fait un premier court qui est passé inaperçu, donc on va donc commencer sa filmographie avec Truman Capote. On va dire que c'est la somme parfaite de Truman Capote, donc inspiré du fait divers, qui a inspiré, qui va... fait divers tragiques qui va permettre à Truman Capote d'écrire son De sang-froid, son best-seller mondialement connu.
Du biopic aussi, entre guillemets.
Du biopic. Et un mélange du stratège que je n'ai pas vu, mais qui, d'après ce que j'ai compris, est un film de sport, sur le baseball.
Oui, mais qui était plus, on va dire, logique. C'est-à-dire que c'est comment on arrive à gagner à des fins mathématiques. Et il y avait déjà un contre-emploi qui était donc Jonah Hill qui jouait du drame pour la première fois face à Brad Pitt.
Et là, le film relate le destin de deux champions de lutte, en l'occurrence les frères Schultz. Dave et Max.
Mark Schultz.
Qui ont gagné tous les deux la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 82, si je ne me trompe pas.
Je crois qu'il est 88 dans positif.
Non, le moment tragique se passe en 88, mais au début du film, ils ont gagné.
Ruffalo l'a gagné, je crois, à cette époque-là, et c'est Tatum qui et donc, se vise là.
Voilà. Donc on a deux frères. Pas que tout oppose, mais qui ont des profils et des destins différents. Donc, le frère aîné interprété par Ruffalo, ouais. On va dire, a une famille bien bâtie, est assez mûr d'esprit. C'est le leader, c'est lui le coach de l'équipe des lutteurs. Et son frère, son plus jeune frère, qui est plus grand que lui, qui est un peu plus costaud, qui est interprété par...
Channing Tatum.
Lui n'est pas pareil, il vit seul dans un taudis. Et un jour, un mystérieux milliardaire va l'appeler et va lui proposer de s'entraîner chez lui dans un énorme gymnase qu'il consacre à la lutte. Et cette personne, c'est alors
John Dupont,
hein, qui est l'héritier d'une grande famille américaine. Alors j'ai lu dans le film, apparemment sa famille a fait fortune grâce au commerce de médicaments. Et moi, j'ai lu dans un article, je crois, dans le positif, que la famille aurait fait fortune grâce à la poudre pendant la guerre d'indépendance. Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'héritier d'une famille qui est
milliardaire.
Et on comprend très rapidement que c'est une sorte de loser qui vit dans l'ombre de sa mère, qui est tel un peu le fantôme de l'aile ouest de la demeure dans Rebecca, qu'on ne voit pas souvent, qui reste avec ses chevaux. Et il essaye de se donner une bonne image, de se donner une identité en faisant croire à sa mère qu'il adore la lutte. Et donc, du coup, il essaye...
Alors qu'il ne connaît rien à la lutte.
Il essaye d'attirer un des deux frères pour essayer de se constituer une équipe de lutteurs et surtout de gagner la médaille d'or en 88 aux Jeux Olympiques de Séoul. Et très rapidement, on sent que quelque chose ne va pas bien avec cette personne, John Dupont. Déjà, du physique. Moi, durant tout le film, j'ai eu l'impression de voir Nosferatu, une sorte de vampire qui essaye un peu de vampiriser ses victimes. On peut faire aussi un parallèle un peu, alors même si bon...
Avec les oiseaux, les oiseaux.
Oui, les oiseaux. Moi, j'ai pensé aussi à Hollywood qui essaie de vampiriser tous les grands artistes du monde entier pour se les réapproprier.
Mais moi, je parle des oiseaux parce que Steve Carell, ce qui est drôle, il le dit, il y a cette réplique qui est très, très drôle. C'est un film qui est donc d'atmosphère, on y reviendra après, d'angoisse, une certaine ambiance, quoi. Et Steve Carell, donc un acteur comique, il y a une phrase dans le film qui, je trouve, magnifiquement drôle, mais en même temps très angoissante, et ça montre le personnage. Il dit « Ne m'appelle pas papa ou menteur, appelle-moi Aigle Doré. » Je pense que cette phrase qui est très très drôle, qui est aussi très pathétique, ça montre ce qui est ce personnage. Mmh. C'est en fait un vautour ou un corbeau qui se rêve aigle. Mmh. Et il adore l'ornithologie, il se rêve aussi en philatéliste, en explorateur.
C'est une personne qui n'a jamais eu de vraie identité, qui s'est essayé à plein de choses, donc intéressé aux oiseaux. Il rêve, il est dans une demeure entourée des peintures des grands généraux américains. C'est une personne qui fait du tir au pistolet avec la police. C'est une personne qui va commander des chars d'assaut et qui va chouiner parce qu'il manque une mitraillette au-dessus d'un tank. C'est vraiment, je pense que là, on tient là un psychopathe. Alors,
mais ouaté quoi, rentré.
Ouaté. J'ai pas envie de raconter un peu la fin parce que j'ai vu le film en avant-première hier soir au Comédia.
Ça savait, le fait divers.
C'est d'après un fait divers, mais pour ceux qui n'ont pas, qui vont pas faire l'effort de rechercher des infos sur ce fait divers, je pense que ce serait bien que les spectateurs y aillent de façon vierge, parce que si tu ne sais pas de quoi ça parle, les gens pensent que une bonne partie des personnes vont aller là-bas en pensant que c'est un film de sport sur la lutte. Et en fait, non, c'est pas vraiment ça.
C'est un drame intimiste.
Il y a des séquences de sport, de lutte qui sont admirablement bien filmées. De toute façon, la caméra n'est pas du tout statique. Hein. Justement, tous les acteurs sont face à la caméra et c'est à eux de se débrouiller, de gesticuler, de jouer face à la caméra. Mais c'est pas un film sur le sport. C'est pour moi un jeu pas machiavélique, mais un échange assez vicieux, tortureux.
C'est un jeu de domination. De dominer, dominant, un peu comme le Master de Paul Thomas Anderson.
Et puis c'est un film, je trouve, qui peut se lire avec des lectures différentes. On peut y voir une critique, une analyse du patriotisme américain. On peut y voir des relations, le conflit entre les relations père-fils. Finalement, l'un des deux frères, interprété par John Tatum. J'y arriverai jamais.
Channing Tatum. Comme le boxeur dans les Simpsons.
Mais je connais pas les Simpsons, donc c'est un peu compliqué pour moi. Il a pas de parents. Le seul père révélateur, enfin référent pour lui, c'était son frère aîné qui finalement va abandonner au profil de ce milliardaire. Et donc on peut y voir cette relation là, et également on peut aussi voir les relations mère fils et les relations
très oedipien.
Et les relations étroits entre différentes classes sociales. La classe sociale très élevé hein, et la classe sociale au plus bas niveau. Et moi, je trouve que c'était un film très intéressant. Le film fait 2h15, donc il traite de sujets divers et variés. Il prend son temps. C'est un film assez complet, bien traité. Le film a eu le prix de la mise en scène. On a un peu... Moi, je ne l'avais pas vu à l'époque, mais tu disais que c'était un peu scandaleux parce que c'est un film qui repose uniquement sur le jeu d'acteur. Pour moi, dans la mise en scène,
il y a... pas uniquement.
Oui, l'acteur est au centre
du drame,
du plan. Et pour moi, la mise en scène fait partie du jeu d'acteur, et je pense que ce prix de mise en scène est juste. Voilà.
Mais j'aimerais juste rajouter un petit mot justement par rapport à Steve Carell. Hein, je suis un fou de comédie américaine, vous le savez. J'ai vu tous les films de Steve Carell, et quelque part, c'est pas très surprenant de le voir dans ce film-là, parce que l'humour de Carell, du moins dans la série The Office, qui est donc inventée par Ricky Gervais, et il a inventé un humour dit reposant sur le malaise, y a ça. Il y a ce malaise-là de The Office qui est décalé, dans un léger décalage. De la comédie, on passe au drame, mais ça aurait pu être une comédie, ce film-là. Et je trouve que Carell...
comédie très, très noire. Hein.
Oui, comédie très, très noire, mais le personnage est tellement bigger than life. Tu vois, il est complètement fou, il est schizophrène, il est paranoïaque. Par ailleurs, c'est complètement édulcoré hein, par rapport au vrai. Hein. Le vrai, il croyait que les animaux l'écoutaient quand même.
Hein. Oui,
il pensait que le FBI, le gouvernement, en avait à lui. Quoi.
Une sorte de John Hughes.
Exactement, ou Citizen Kane. Mmh. On pense à ça, à Kane, et il y a ce rapport-là avec la mère, l'enfance, etc., chez Steve Carell. Et je trouve ça admirable, voilà, ce côté, ce nez immense, on dirait un vautour, hein, comme j'ai dit, un bec, ses cheveux blancs, il a pris du poids. Enfin bref, c'est une immense performance.
Pour finir, vraiment, 30 secondes, ça rajoute un petit côté un peu mystérieux au film. Apparemment, Bennett Miller a commencé à élaborer le film en 2006, juste après Truman Capote. Et c'est une personne qui est venue le rencontrer par hasard dans un supermarché, qui devait le connaître. Lui, le réalisateur, ne le connaissait pas. Il est venu, il lui a apporté une enveloppe où dedans, il y avait toutes les coupures de journaux d'époque de 96 qui relataient l'événement. Et voilà. Et donc, apparemment, la personne est mentionnée au générique. On ne connaît pas son identité, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais c'est une personne qui est à l'origine du projet, qui lui a porté comme ça sur un plateau le projet.
D'accord. Et écoutez, musique, et on se retrouve pour une troisième partie où justement on va rester dans cette idée un peu des acteurs qui ont troqué leur casquette de comique pour de rôle plus dramatique.
turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them.
Brume 90.7, troisième partie de notre Confluence Cinéma, et on va parler justement de ces fameux acteurs qui, comme dans Foxcatcher, ont pris un petit peu le pari de jouer des rôles dramatiques ou durs, alors que c'était plutôt des acteurs-actrices qui venaient du comique.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation chez les comédiens dits comiques d'être pris au sérieux.
D'ailleurs, la plupart des acteurs comiques sont des gens malheureux dans la vie. Hein.
Bien sûr. Ouais.
Pour jouer des rôles dramatiques, finalement, pour eux, c'est pas un rôle de composition. Ils sont habitués. Et la plupart des acteurs comiques, je pense à Gad Merad, qui dans l'interview le disait, ils en souffrent d'être toujours cantonnés aux films comiques alors qu'ils aimeraient bien faire autre chose.
Et il y a ce cliché, mais je trouve assez vrai. On dit que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer, mais c'est vrai. C'est une mécanique assez implacable, quoi. Et c'est quelque part libérateur pour eux, à la limite. C'est presque des vacances que de faire pleurer, quoi. Et je pense que le plus bel exemple en France, c'est quand même Coluche. Tu vois, Pantin ?
Voilà, c'est ça. On en a parlé déjà il y a quelques mois, quand il y avait eu une belle rétrospective Coluche à l'Institut Lumière. Et justement, on avait pu rencontrer à l'époque Anconina, Agnès Soral et quelques autres.
Les fils,
un petit peu la bande de ce film. Et voilà, c'est vrai que Coluche, à un moment donné, il était au sommet de sa popularité, immense star, peut-être la plus grande star à l'époque de France, adorée et tout ça, qui en même temps, lui, depuis des années, s'enfonçait dans la dépression, dans des choses assez difficiles. Et voilà, ce rôle, ça a permis aussi de montrer à la face de la France, en tout cas, que c'était aussi un grand acteur dramatique. Et c'est vrai que ce rôle du pompiste... C'est fou parce qu'à la fois on connaît tous Coluche. Je pense pour les gens de l'époque, ça a dû être encore plus dingue de le voir faire ses sketchs, ses films rigolos. Puis d'un coup, de voir ce pompiste Lambert qui est tellement finalement une image comme ça du drame,
un
fantôme, des difficultés de ce qu'un homme peut traverser dans la vie. Et voilà, et c'est vrai que Coluche est extraordinaire dedans, les yeux toujours explosés par la marijuana et autres. Ça, c'est un petit peu pour le.
Oui, oui.
Pour les anecdotes, mais enfin voilà, c'est vraiment un, moi de toute façon je trouve que c'est un grand film Ciao Pantin, et de voir Coluche justement encore une fois changer de peau comme ça en quelques heures de film, c'est dingue quoi.
Il y avait Bourvil qui avait fait ça quelques années auparavant avec Le Cercle Rouge de Melville. Alors on en
même avant, même avant il
l'avait
fait. L'Arbre de Noël avec un enfant malade.
Oui, mais c'était un film, le sujet était tragique, mais c'était un personnage assez souriant. Là,
oui, mais c'est vraiment casse-gueule.
Là, dans le Cercle Rouge, c'est un inspecteur qui ne sourit pas, qui ne fait jamais rire.
Et c'est vrai que c'est à contre-emploi, pour le coup, de ce que Bourvil a toujours fait, de ce qu'il représentait aussi à l'époque.
Et d'ailleurs, il faut remettre un peu le film dans son contexte. La dernière séquence du film, qui est le dernier plan tourné par Melville et son équipe.
Extraordinaire.
Apparemment, d'après ce qui est dit, c'est que Bourvil a appris quelque temps avant la prise qu'il allait mourir, enfin qu'il avait sa maladie, son cancer. Et le plan du film, c'est Bourvil qui part avec un de ses adjudants face à la caméra dans la nuit noire et qui ne sourit pas, comme ça. Et il y a des prises qui existent qu'on a pu voir où dans une prise, il se met à rigoler, il se met à sourire.
Pire que ça, il dit, vous savez comment je l'ai arrêté ?
Oui.
Il dit parce que j'ai appliqué la tacatacatikatik du gendarme. Donc la phrase, enfin la chanson culte de Bourvil, ça vous montre quand même que les mecs, jusqu'au bout, essayent quand même d'être déconnants. Quand même.
Et le film a été un des plus gros succès de Melville. Et justement, ce choix de Bourvil a plu aux spectateurs. Pourtant, c'était un choix casse-gueule. Comme quoi, voilà, avant Coluche, il y avait Bourvil qui avait tenter ce pari qui a plutôt bien fonctionné. Après, il y a eu d'autres acteurs qui ont lancé ça. Je pense notamment à Robin Williams. Bon, pareil, le comique torturé par excellence. Alors, tu me disais qu'au début de sa carrière, il avait fait des drôles dramatiques.
Hein. Déjà, il a commencé donc, sur scène avec le stand-up. Après, il a fait l'émission du SNL et compagnie. Il était très lié à la bande de John Belushi, Dan Aykroyd. Et il a déjà commencé avec des films peut-être pas dramatique, mais plus doux, amer. Je pense Le Monde selon Garbe, qui est un très beau film. Et puis après, Good Morning Vietnam, qui est quand même pas une comédie.
Oui, mais voilà, il nous fait rire. Alors que
à la fin mais de c'est, sa pas, carrière, c'est il... pas des pures comédies quand même.
Ça, Photo Obsession, ou alors.
Insomnia, oui, très
Insomnia,
bon,
où là, il joue le rôle d'un tueur en série.
Ou même Krebs Mouchikré dans la comédie où il joue un tueur. C'est vrai, non, mais. Ou même en France, on peut même citer, c'est pas un acteur admirable, mais Cadmerade avait fait un très bon film avec Mélanie Laurent de Lioré.
Oui,
Je vais bien, ne t'en fais pas.
Qui lui a valu un César.
Exactement, où il avait chanté après I Believe I Can Fly, un peu comme Bourvil finalement, ils reprennent leur chanson, leur tube, leur tube intemporel, et il était vraiment admirable en rôle d'un père de famille qui cache la vérité à sa fille sur la disparition de son fils. C'est des rôles assez casse-gueule, et ils s'en sortent de manière assez admirable. Et j'aimerais évoquer peut-être le cas inverse, vite fait, comme ça, des acteurs du drame qui s'essayent à la comédie, c'est assez rare. Je pense à John C. Reilly, acteur américain, qui a tourné grand acteur pour Altman, acteur de Scorsese aussi dans Gangs of New York, dans Aviator, acteur de Paul Thomas Anderson aussi, de Grande Fraise, d'Épopée, et qui a rejoint depuis 10 ans la bande à Apatow, surtout d'Adam McKay, et qui est le comparse ultime de Will Ferrell. Will Ferrell qui est un peu l'alter ego de plus déconnant de Steve Carell, quoi. Et c'est marrant de voir ça quand même, que des gens un peu détendus acceptent aussi d'aller faire le guignol, de faire le cirque, quoi, tout simplement.
Puis c'est une belle image du cinéma aussi finalement. De voir comme ça qu'il n'y a pas de cloison. À un moment donné, il y a aussi le cinéma et des gens qui peuvent passer d'un genre à l'autre. C'est vrai que c'est assez beau.
C'est que c'est Annie Girardot d'ailleurs, qui, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même. Elle était de la fameuse classe 53 au conservatoire avec Belmondo,
Marielle, Noiret,
Crémer, tous ces acteurs-là. Et ce qu'il faut savoir, donc tout le monde retient ces acteurs-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elle qui a gagné le premier prix de conservatoire, à la fois en comédie et en drame. Quoi. C'est la seule fois où c'est arrivé.
Ce qui est assez costaud. Quoi. D'accord, messieurs. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve dès mercredi prochain pour de nouvelles aventures cinéma.